Nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet qui est à la fois très technique, mais aussi source de nombreuses controverses entre les acteurs des services financiers et les régulateurs, donc la discipline de règlement livraison ou Settlement Discipline Regime en anglais, SDR, l'une des mesures de la CSD Regulation, qui est le texte qui réglemente à la fois les dépositaires centraux, leurs activités et leurs relations avec leurs participants, dont nous sommes. Donc SDR vise à favoriser le dénouement à bonne date des instructions de règlement livraison de titres en imposant des pénalités en cas de retard et en visant aussi l'éradication des suspens au-delà d'un certain délai. Alors, vous allez le voir, les mesures qui ont été prises dans ce cadre sont fortes, sont contraignantes. Elles pourraient s'avérer potentiellement extrêmement coûteuses pour les acteurs de la chaîne de valeur qui va de l'investisseur aux infrastructures de marché et en passant par les intermédiaires. On sait déjà d'expérience combien les rachats de titres peuvent s'avérer onéreux pour ceux qui les supportent. Et le montant des pénalités du nouveau régime se veut dissuasif en ce qu'il est basé sur des taux allant d'un dixième de point de base pour les obligations d'État à un point de base pour les actions liquides, ce qui peut, sur certaines lignes, représenter des montants extrêmement significatifs. Malheur à celui qui est à l'origine d'un défaut. Donc, comme on vous l'a indiqué, pour en parler, j'ai avec moi Sylvie Bonduel et Pascal Arnold. Nous disposons donc de 30 minutes pour vous présenter ce cadre et donc effectivement une quinzaine de minutes restantes pour répondre à vos questions. Alors je vais commencer et la galanterie française m'impose de me retourner d'abord vers Sylvie. Donc Sylvie, tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur cette réglementation CSDR dans laquelle s'insère la discipline de règlement livraison et l'objet de nos débats d'aujourd'hui?
Merci, merci Eric et bonjour à tous. Effectivement, tu le rappelais, CSDR, c'est en premier lieu une réglementation qui vise à donner un cadre européen au CSD, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc, ça veut dire une définition, un statut, des rôles et responsabilités et accessoirement, l'exigence, l'obligation d'être réagréé au titre de CSDR. Mais CSDR, c'est aussi un ensemble d'autres mesures. Citons de manière non exhaustive la possibilité d'une ségrégation individuelle des comptes au niveau du CSD, la dématérialisation des titres, le T plus 2 hein, avec lequel on vit déjà depuis quelques années, le choix pour un émetteur de son CSD d'émission, le reporting au régulateur, parce que dans toute nouvelle réglementation, maintenant, il y a du reporting à faire au régulateur, et bien évidemment, ces fameuses disciplines de dénouement dont on parle. Stéphanie a mentionné des documents qui sont accessibles par un lien. Vous trouverez une timeline de CSDR en slide 2. Et vous pourrez du coup constater que la majeure partie de ces mesures est déjà en vigueur, hein, parce que CSDR, c'est un texte qui date de 2014, mine de rien. Et donc aujourd'hui, il reste essentiellement les disciplines de dénouement.
Donc, discipline de dénouement, sujet du jour, et en quoi consiste donc cette discipline?
Alors, les disciplines de dénouement, c'est trois volets, dont le but est d'accroître un dénouement en bonne date, en date convenue entre les parties à la négociation, ce que l'on appelle, nous, la date de dénouement théorique. Alors, le premier volet se situe très en amont. On est juste après la phase d'exécution de la transaction. On est au moment de l'allocation et de la confirmation entre les parties à la transaction. Et le CSDR va imposer à ces parties d'échanger toutes les données qui seront nécessaires à un bon dénouement. Et en priorité, bien évidemment, ça va de soi, les coordonnées de règlement livraison. Les deux étapes supplémentaires, elles sont plus loin dans le processus, elles sont après la date de dénouement théorique, et donc, de facto, elles vont se focaliser, elles portent uniquement sur des dénouements qui ne se sont pas faits totalement en bonne date. Une première partie va être l'application de pénalités, et en dernier ressort, va arriver l'obligation de déclencher un rachat pour des suspens trop anciens. Bon, on le voit clairement, hein, le but de ces disciplines de dénouement, c'est qu'un suspens ne perdure pas indéfiniment dans les livres d'un CSD. Qu'ils finissent par disparaître et que l'instruction, au bout de quelques temps, soit finalement dénouée ou annulée. Mais l'idée, c'est de décliner et d'expliquer un peu plus ces points lors de cette présentation.
D'accord, donc pénalité, rachat, plus de détails à venir, mais d'abord, à quelle échéance?
Alors, Stéphanie parlait de février 2021. Effectivement, c'est la dernière date connue. Rappelons quand même qu'à l'origine, c'était septembre 2020 et le février 2021 est apparu très récemment. On savait que septembre 2020 ne tiendrait pas. On était plutôt sur novembre 2020. Maintenant, c'est février 2021 à défaut d'eau. Enfin, en attendant la fin de la non-objection par le Parlement et le Conseil. Bien évidemment, à notre niveau, on est sur cette perspective. Pour autant, même si ce délai supplémentaire est bienvenu par toute l'industrie, il n'empêche que les associations continuent à interpeller les autorités européennes, que ce soit l'ESMA ou la Commission, pour demander à surseoir à cette mise en œuvre. Parce que, il reste des difficultés dans sa mise en œuvre pour que l'industrie soit prête, totalement prête. Et là, effectivement, peut-être que c'est plus les rachats qui sont visés pour être prête à l'échéance de février 2021. Et bien évidemment, la crise du Covid n'a rien arrangé à cette situation. Bon, pour la petite histoire, puisque l'actualité nous rattrape, je rappelle que le ministère des Finances britannique a décidé de ne pas appliquer ce régime des disciplines de dénouement, bien qu'étant, à mon avis, un des grands contributeurs à son écriture.
Très bien. Donc, a priori, 21 février, une entrée en vigueur. Une possibilité, suite à une action de lobbying de l'industrie, d'un report supplémentaire. Enfin, en tout cas, nous le souhaitons, plus particulièrement sur les rachats. Mais en tout état de cause, en admettant que ce régime soit mis en œuvre, quel en est le contenu? Donc, commençons par regarder ce qu'il en est des pénalités. Et pour ce faire, je me tourne vers Pascal, qui va nous en dire un petit peu plus, et notamment en ce qui concerne, par exemple, le périmètre d'application.
Oui, merci Eric et bonjour à tous également. Eh bien, il s'agit d'une réglementation européenne qui va toucher la quasi-totalité des instructions de règlement livraison qui vont se dénouer dans un CSD de l'espace économique européen. Donc, je rappelle que dans le cadre de cette réglementation, les ICSD, Clearstream Banking Luxembourg et Euroclear Bank, sont considérés comme des CSD au même titre que les CSD nationaux historiquement existants. Donc, dès lors qu'ils sont négociés ou compensés, ou subtilité de la réglementation admis à la négociation ou à la compensation, que ce soit sur une plateforme de négociation ou bien au sein d'une CCP de l'Union européenne, tous les types de titres financiers sont touchés. Les actions, les obligations, les varants, les parts d'EPC, les instruments monétaires et même le quota d'émission. Et pour retrouver la liste des titres admis à la négociation ou à la compensation, il faut se référer à un fichier maintenu par l'ESMA, qui est l'autorité européenne des marchés financiers, je vous le rappelle, dans une base de données appelée FIRDS, FIRDS étant l'acronyme anglais de Financial Instruments Reference Data System, et cette base de données est librement accessible sur le site de l'ESMA. Il faut noter toutefois une exception. Les actions dont la place de cotation principale n'est pas dans l'Union européenne sont exemptées. Encore une fois, la liste de ces titres exemptés est maintenue par l'ESMA, également à partir de déclarations des autorités nationales compétentes, comme la précédente, dans une base de données établie initialement pour les besoins de la Short Selling Regulation. Et cette base de données est identifiable donc sur le site de l'ESMA sous le nom de Exempted Shares Under Short Selling Legal Framework. Et tout comme la plupart des titres financiers ou la quasi-totalité des titres financiers vont être concernés, de la même façon, quasiment tous les types de transactions seront touchés. La seule exception aujourd'hui concerne les OST sur stock.
D'accord, donc en fait, on voit bien la plupart des transactions sur la quasi-totalité des titres sont concernées. Alors maintenant, qu'en est-il du mécanisme de calcul de l'imposition des pénalités?
Alors, le principe des pénalités est assez simple, Eric. Toute journée de retard de dénouement doit donner lieu à une pénalité. Et cette pénalité sera versée par la partie responsable de la défaillance au profit de sa contrepartie. Et concrètement, c'est le CSD qui, en fin de journée, va identifier les opérations appariées et non encore dénouées, déterminer lequel des deux participants est responsable et calculer les pénalités. Et à l'issue de ce processus, le CSD informera ses participants de toutes les pénalités qui les concernent, charge à eux, de les répercuter à leurs propres clients. Tout ceci sera un travail quotidien et à l'issue du mois calendaire, le CSD va procéder à un netting des montants quotidiens qui seront dus ou à recevoir par chacun de ses participants. Je rappelle que les pénalités dues par l'un sont reçues, versées à l'autre et imputera les montants nets au compte des participants le 17e jour ouvré du mois.
D'accord, donc en fait, identification par le CSD, reporting, paiement, mais est-ce qu'on peut dire d'abord quelques mots de la responsabilité et justement de ces modalités de calcul?
Tout à fait. Et sans doute pour cela, le mieux est de travailler sur un exemple. Alors là, pour ceux qui ont accès au support, qui était dans le lien, il s'agit du slide numéro 3 qui illustre la vie d'une instruction. Et dans cet exemple, on suppose qu'un vendeur a émis son instruction en temps et en heure, avant sa date d'événement théorique, et que l'acheteur n'a émis sa propre instruction qu'au matin du troisième jour après cette date. Après l'appariement qui va intervenir dans la foulée, donc dès réception de l'instruction par le CSD, la transaction va entrer dans le champ de calcul des pénalités, et ce calcul va d'ores et déjà, comme il y a déjà 2 jours de retard, couvrir ces 2 journées depuis la date de dénouement théorique. La règle veut que le responsable des pénalités pour ces 2 journées sans dénouement pour cause d'appariement tardif sera le dernier à avoir instruit, à savoir dans notre exemple, l'acheteur. Au soir du troisième jour, la transaction ne se dénoue toujours pas, mais cette fois-ci, c'est parce que le vendeur ne détient pas suffisamment de titres. Là, c'est lui qui devient responsable de la défaillance et la pénalité pour cette troisième journée lui sera donc imputée. Sur le scénario décrit, il en est de même pour les journées suivantes jusqu'à ce qu'il soit livré des titres par une autre partie, ce qui permettra le dénouement de la transaction. Ainsi, dans notre exemple, on voit qu'une même instruction peut donner lieu à des pénalités imputées tantôt au vendeur, tantôt à l'acheteur. On voit aussi on peut distinguer 2 types de pénalités. Les pénalités pour appariement tardif, nommées LMFP pour Late Matching Fail Penalties dans la littérature anglophone sur le sujet, et les pénalités pour suspens de dénouement, qui elles sont nommées SEFP pour Settlement Fail Penalties. Et celles-ci peuvent être dues, comme on vient de le dire, à un manque de titres, côté vendeur, à un manque de cash. Ça peut être côté acheteur, côté vendeur, bon, même si dans le plus couramment côté acheteur, mais aussi à une instruction appariée et positionnée délibérément dans un statut qui empêche son dénouement. La transaction est dite dans ce cas en hold, et ceci côté vendeur, tout comme côté acheteur. Et on peut même ajouter, même si c'est pour l'anecdote, qu'on peut aller jusqu'à avoir le cas où les deux parties sont pénalisées pour une même journée, chacune ayant mis l'instruction en hold, et sans que cela soit neutre d'ailleurs, puisque les formules appliquées à la pénalité du vendeur ou à la pénalité de l'acheteur ne sont pas forcément, d'ailleurs, ne sont pas les mêmes.
Donc moi, ce que je retiens, ce qui est intéressant et pas évident, c'est que tant l'acheteur que le vendeur peuvent être pénalisés, et tant un retard d'appariement qu'une mise en suspens peuvent être pénalisés. Donc ça, c'est quand même, à mon avis, 2 choses à retenir. Alors maintenant, qu'en est-il effectivement du calcul? Combien ça coûte?
En disant tout de suite que, par rapport à la typologie des pénalités, que le calcul elle-même, que l'on parle de LMFP ou de SEFP. Et elles sont calculées ad valorem. Et le plus couramment, sur la base de la contre-valeur des titres de la transaction, bien qu'il existe là encore quelques cas particuliers, mais c'est bien souvent, le plus généralement, à cette valeur à laquelle sera appliqué un taux qui dépend de la nature de la défaillance, si c'est une défaillance titre ou une défaillance espèce, qui dépend du type de l'instrument, de sa liquidité, ou alors, si on se fonde sur le montant cash, de la devise du montant cash. Tous ces détails, nous les avons décrits dans un livre blanc que nous avons publié fin janvier, qu'évidemment nous pouvons rediffuser à qui sera intéressé. Mais comme le disait Eric, hein, l'ordre de grandeur... du taux est compris entre 1/10 de point de base et 1 point de base, respectivement pour les obligations d'État, le moins élevé, et pour les actions liquides, le plus élevé.
Alors, comme je le disais dans mon introduction, hein, suite à tout ça, malheur à celui qui est à l'origine d'une défaillance. Hein. Alors, comment est-ce que SGSS envisage d'accompagner ses clients?
Nous avons situé notre action à trois niveaux. D'abord, agir pour prévenir la survenance des suspens. Ensuite, il faudra quand même gérer les pénalités parce qu'elles surviendront quand même. Et enfin, procéder par la suite à une analyse des pénalités passées, de façon à identifier où se situent les points de faiblesse et à y remédier dans le futur. Donc en anglais, on dit on prévient, prevent, on gère, manage et on analyse, monitor. Concernant le premier point, nous avons de notre côté procédé à une revue de l'ensemble de nos processus de gestion des instructions, en réception comme en émission, de façon à identifier tous les points de contention qui pouvaient subsister. On a procédé à quelques améliorations dans ce domaine. Et nous invitons bien sûr nos clients à procéder à ce même type de revue, en commençant de leur côté par la gestion des confirmations et allocations avec leur contrepartie, et pour poursuivre ensuite avec les processus d'échange avec nous. Ensuite, nous allons aussi étendre l'usage du dénouement partiel et du hold and release dans le but de limiter les montants de pénalité. Le dénouement partiel vise évidemment à ne pas subir des pénalités pour des titres détenus et disponibles, mais en quantité insuffisante pour assurer un dénouement total. Notre règle deviendra donc que le dénouement partiel sera accepté par défaut, qui est l'inverse de la règle actuelle. Et toute exception à cette règle restera possible, mais devra faire l'objet d'une demande expresse de nos clients. Et il y aura deux manières pour implémenter ce refus. Soit par un paramétrage au niveau du compte-titre pour un refus permanent, soit pour un refus ponctuel par l'intermédiaire de l'instruction de règlement de livraison. Concernant le hold and release, qui permet d'émettre en fait l'instruction sur le marché tout en retenant son dénouement, nous allons nous-mêmes en faire un usage systématique dès lors que la provision de titre du compte sera insuffisante, en instruisant l'instruction malgré tout sur le marché, en l'état on hold bien sûr, pour ne la libérer qu'au rythme de constitution de la provision. De cette façon, les obstacles à l'appariement pourront être détectés précocement et traités immédiatement, de façon à éviter les pénalités pour appariement tardif. Enfin, dernier point sur ce chapitre, notre service web Custody Solutions, qui était auparavant logé dans SGSS Gallery et qui maintenant sera intégré à SG Markets, qui est le portail web B2B de la banque de grande clientèle de Société Générale. Ce service web permettra de porter son attention plus directement aux instructions à risque de pénalité ou de buy-in.
Oui, donc des méthodes pour prévenir, hein, hold and release. Dénouement partiel, suivi au quotidien des instructions potentiellement en défaut à la date normale de règlement de livraison. Et à côté de ça, qu'en est-il de la gestion des pénalités si d'aventure on en vient à être en suspens et donc pénalisé?
Les participants des CSD sont en première ligne, puisqu'ils vont recevoir les reportings de pénalités des CSD et des sous-dépositaires d'ailleurs. Et à sa réception de ces reportings, il nous faudra rechercher les instructions pénalisées, identifier le client sous-jacent et lui imputer les pénalités, puisqu'en général, nous ne devrions pas être en cause. Ceci dit, si d'évidence nous sommes en cause, à ce moment-là, on gardera la pénalité pour nous-mêmes. Pour cela, nous avons développé une toute nouvelle application dédiée à cette gestion de pénalités et dont les données serviront de support quotidiennement au reporting des pénalités par message SWIFT ou par fichier CSV que nous ferons pour nos clients, à l'image de ceux que nous recevrons des CSD ou de nos subcustodiens. Et c'est bien sûr aussi dans cette application que nos équipes vont procéder aux ajustements de pénalités qui pourront intervenir, notamment en cas de contestation justifiée de pénalités qui avaient été reportées les jours précédents. Fonction mensuelle de cette application, c'est la diffusion le 14e jour ouvré du mois, après calcul des montants nets par devise résultant des pénalités du mois précédent, d'informations sur ces montants nets. Ces montants nets auront été auparavant réconciliés avec les données qui auront été reçues des CSD et des subcustodiennes, toujours dans la même optique. Tout au long de la chaîne, les traitements sont similaires. Ce reporting mensuel qui sera envoyé donc le 14e jour ouvré du mois servira en fait de préavis de paiement et nous opérerons au paiement le 17e jour ouvré du mois, donc 3 jours ouvrés plus tard. Pour assurer le suivi, nos clients se verront aussi offrir la possibilité dans notre portail web dont nous étendons les fonctionnalités pour la circonstance, de suivre les pénalités au quotidien en visualisation, ainsi que d'accéder à des projections mensuelles pour suivre tout au long du mois et notamment à l'approche du paiement où l'on se situe. Et ceci sera complété par un tableau de bord qui fournira une vision synthétique des pénalités présentes et passées.
Très bien, alors donc le client reçoit sa facture, et donc maintenant il va devoir procéder au paiement. Comment ça se passe?
Oui, c'est une bonne question, parce que justement il reste encore un débat sur ce point. Une chose est certaine, nous procéderons par prélèvement ou virement automatique le 17e jour ouvré du mois. Et a priori, le compte espèce utilisé sera celui associé au compte titre dans la devise de la pénalité. Mais il y a toujours un débat à propos des fonds. Et la question est de savoir s'il ne faudrait pas plutôt imputer les pénalités à un compte de la société de gestion plutôt qu'au compte du fonds. Donc pour l'instant, nous sommes toujours dans l'attente des conclusions et des éventuelles préconisations qui résulteront de ces discussions, notamment au niveau de l'AFG, et nous arrêterons ensuite notre solution définitive, bon, sachant que nous explorons quand même d'ores et déjà la possibilité d'offrir le choix du compte d'imputation à nos clients, donc compte au niveau du compte cash au niveau du compte titre ou bien compte cash de la société de gestion. Dernière précision, concernant les devises, les pénalités pourront être calculées en de multiples devises. Et nous avons pris le parti, s'il existe une option de change paramétrée au niveau du compte titre, pour les instructions de règlement de livraison, d'appliquer cette option de change et donc de mouvementer le compte du client dans la devise qu'il aura choisi.
Alors moi, ce que je note au travers de ce que tu viens de dire, c'est que tout ce process est relativement compliqué, lourd pour l'ensemble des intervenants de la chaîne de valeur et donc bien évidemment il aura un coût. Alors comment est-ce que allons-nous gérer ces coûts qui sont associés à cette gestion d'une grande complexité?
Oui, comme tu dis Eric, toute cette gestion va avoir un coût non négligeable pour chacun des intervenants dans la chaîne de règlement de livraison, un coût d'investissement et ensuite un coût de gestion au quotidien. Bon, il se trouve que pour l'instant les modalités de répercussion de ces divers coûts ne sont pas encore arrêtées, mais on devrait plutôt dire ne sont pas encore dévoilées, ni par les uns ni par les autres, et notamment pas par les CSD. Et du coup, tout le monde reste dans l'expectative, personne ne sous-entend se mouiller, comme on pourrait dire.
Oui, enfin, il faudrait bien que quelqu'un paye le filet.
Un prix sera finalement défini.
Voilà, par les différents acteurs qui pourraient in fine donc se cumuler. Donc voilà, restons attentifs. Merci Pascal pour tous ces éléments concernant les pénalités. Maintenant, je pense que nous rentrions dans le débat concernant les rachats, là, véritable sujet de complexité et d'inquiétude. Et donc là, je me retourne vers Sylvie maintenant, qui est notre spécialiste du sujet des rachats, pour qu'elle nous donne quelques précisions de ce régime qui semble faire office d'épouvantail.
Merci Eric. Bon, je pense que tout le monde en est conscient, mais après tout, ça ne mange pas de pain de le rappeler. L'objectif de cette partie de la réglementation, à défaut du 100% de dénouement en bonne date dont rêve tout négocié, tout régulateur, pardon, c'est de mettre un terme au plus vite à des suspens de règlement livraison. En conséquence, aux pénalités vient s'ajouter cette fameuse obligation de rachat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un acheteur devra mandater un tiers, qu'on appelle buying agent dans la littérature réglementaire, pour lui procurer, en lieu et place du vendeur défaillant, les titres qui étaient attendus. Bien évidemment, tous les coûts qui sont induits par cette nouvelle transaction seront à la charge du défaillant. Alors, attention, hein, quand je parle d'acheteur, je fais bien clairement référence à la partie qui a conclu la transaction, celle qui est face au vendeur, celle qui était concernée par les obligations au moment de la location, de la confirmation. Ça, c'est très important de bien avoir ça en tête. Car si les pénalités s'appliquent aux acteurs du dénouement, l'obligation de rachat est bien au niveau de la négociation. Alors, concrètement, et là, je me permets de faire un petit renvoi au slide 4 pour ceux qui y ont accès. Vous trouverez une présentation de l'enchaînement des phases. Donc concrètement, cette procédure de rachat comporte trois étapes. La première période, qu'on pourrait qualifier de période de grâce, pour cette période-là, l'idée, c'est de laisser toutes ses chances à un suspens pour se dénouer. Donc on ne verra dans cette partie-là que l'application des pénalités présentées par Pascal. La durée de vie de cette période va varier en fonction du type d'instrument financier. Plus précisément, elle sera de 4 jours pour les actions liquides, 7 jours sinon, à l'exception près des transactions qui ont été faites sur un marché de croissance, dit de croissance. À la fin de cette période, l'acheteur a l'obligation d'accepter toute livraison partielle en provenance du vendeur. L'idée, elle est simple, hein, c'est que la quantité qui sera l'objet du rachat doit se limiter à la quantité réellement manquante. Ceci étant fait, on va rentrer dans la deuxième période qui est la période de rachat à proprement parler. La première chose que devra faire un acheteur, c'est de s'assurer que le rachat est possible. Et si c'est le cas, il devra mandater un buying agent. Ce buying agent aura cette période de rachat pour trouver les titres et les livrer à l'acheteur. Il pourra même éventuellement les trouver auprès du vendeur. Si ce dernier avait reçu des titres depuis. Et il devra donc les livrer à l'acheteur, ça c'est important. À la fin de cette période, et si une partie du rachat n'a pas été exécutée, s'il reste une partie des titres manquants, parce que bon, on peut espérer que tout se passe bien, mais probablement on risque d'avoir des buy-in partiellement exécutés, l'acheteur aura la possibilité de choisir entre toucher une indemnisation espèce déterminée sur la base d'un prix de référence des titres qui n'a toujours pas reçu, ou faire une deuxième tentative de rachat. Et à ce moment-là, on va rentrer dans cette période complémentaire. Pour le buying agent, ça ne change rien. Il est toujours mandaté pour trouver et livrer les titres. En revanche, le point important, c'est que c'est la deuxième et dernière tentative, c'est-à-dire qu'à la fin de cette période complémentaire, s'il reste des titres non trouvés ou du moins non livrés, la compensation cash dont on parlait tout à l'heure s'appliquera obligatoirement. Vous trouverez là encore via le lien qui est avec l'invitation, vous trouverez en annexe plus d'informations sur ce processus. Le point important à noter, c'est que la livraison des titres trouvés par le buying agent se fait directement à l'acheteur, elle ne passe pas par le vendeur, et elle est contre espèce.
Alors effectivement, c'est un processus qui est complexe à mettre en œuvre. Est-ce que c'est la raison des inquiétudes qu'on peut entendre lire sur la place dans les échanges qu'on a pu avoir avec les régulateurs?
Alors, sans aucun doute, on voit bien que c'est pas évident à mettre en œuvre, mais au-delà de cette complexité opérationnelle, il y a d'autres points qu'on peut mettre en avant. D'abord, les acteurs qui seront soumis à l'obligation, ils ont tout simplement aucune expérience des rachats. Aujourd'hui, le rachat, c'est essentiellement un sujet de CCP et donc limité au monde des compensateurs. Demain, si les CCP continuent à racheter, les négociateurs seront obligés de déclencher des rachats pour des transactions qui ont été négociées et non compensées. Et surtout, l'acheteur sera obligé de déclencher des rachats pour ces transactions non intermédiées. Et il lui faudra donc trouver un buying agent, faire du KYC et puis coup par coup, savoir la quantité à racheter et qui doit être racheté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'obligation s'applique à tout suspens unitairement. Or, on sait pertinemment qu'une opération, un dénouement n'est pas isolé, il fait partie d'un tout, et un simple suspens dénouement, par un effet de domino, va enclencher d'autres suspens. Chacun de ces suspens devant, par application de CSDR, déclencher un rachat. Donc un nombre de rachats inutiles. Je prends l'exemple, hein, j'ai acheté des titres et je les revends. Je ne suis pas livré, je ne peux pas livrer. Arrive par application de CSDR, au bout par exemple des 7 jours, je vais déclencher un rachat à l'encontre de celui qui m'a vendu mais pas livré. Et en même temps, au même moment, je vais me faire racheter par celui à qui j'ai vendu les titres et que je n'ai pas livré. Donc, et je ne parle même pas du cas où il y a une CCP dans le paysage. En fait, ce qui est dommage avec CSDR, c'est que contrairement, enfin pour les pénalités, Pascal l'a expliqué, on a bien tenu compte, enfin les régulateurs ont bien tenu compte de ces chaînes, puisque la pénalité payée est reversée à celui qui est en aval. Il est regrettable que les régulateurs, les législateurs n'aient pas fait preuve d'autant d'imagination pour les rachats. Enfin, le dernier impact qu'on peut citer, c'est l'impact sur le marché lui-même. Il y a bien évidemment un impact sur la liquidité, mais aussi un impact sur les offres de market making, que ce soit en offre disponible elle-même ou en coût d'une offre de market making. Bien évidemment, tous ces points ont fait l'objet de questions qu'on a posées aux régulateurs, aux législateurs, et malheureusement, force est de constater aujourd'hui que toutes ces questions restent sans réponse. Du coup, il est difficile de dire à ce stade si l'industrie sera prête pour le 1er février 2021. Et à la limite, je me permettrais de dire que finalement, la meilleure façon de traiter un buy-in, c'est peut-être de l'éviter.
Bon, alors on commence à être un peu short en temps, donc on va essayer d'accélérer sur les toutes dernières questions avant de vous laisser la parole. Alors, je serais tenté de dire, au regard de ce que tu as dit, Sylvie, c'est qu'il serait peut-être intéressant de nous dire quelques mots de ce qu'il advient de l'instruction à l'origine du rachat.
Alors, donc je vais essayer d'être très très brève. C'est simple, elle est annulée. On sait, du moment qu'il y a un buying agent a été mandaté, on sait que cette instruction n'ira plus jamais à dénouement et que son dénouement sera remplacé par un flux financier entre l'acheteur et le vendeur, avec d'un côté la contre-valeur espèce des titres non livrés et de l'autre côté le montant de l'achat, avec bien évidemment les frais associés à l'exécution d'un buy-in en plus. En revanche, cette instruction, elle ne disparaîtra réellement qu'à la fin du processus. Donc, elle restera dans les lignes, dans les livres du CSD. Elle aura été mise en hold pour éviter une double livraison des titres à l'acheteur. Et elle étant en hold, comme l'a expliqué Pascal tout à l'heure, elle fera l'objet d'une pénalisation.
D'accord. Donc effectivement, des nouvelles procédures, des adaptations sans doute nécessaires.
Oui, alors en termes d'adaptation, je pense que celle qu'il faut mettre en avant, c'est il faut se doter des moyens de gérer des dénouements partiels, hein, on l'a vu. Il faut savoir gérer le statut de hold and release des instructions. Dans un autre zone d'évolution, c'est les instructions de rachat elles-mêmes, hein, celles qui sont entre le buying agent et l'acheteur, elles devront être topées parce que le CSD doit pouvoir les détecter. De même, les instructions qui pourraient être émises pour remplacer l'instruction d'origine en suspens dans le cas d'un rachat partiellement exécuté, ces instructions devront aussi être flaguées.
D'accord, très bien. Et alors, SGSS, là-dedans, dans ce processus, qu'est-ce que nous avons prévu de faire?
Alors, j'ai expliqué, j'ai mentionné tout à l'heure, hein, je me permets de le rappeler, la responsabilité du buy-in, elle est bien au niveau des parties à la transaction. Pour autant, SGSS va accompagner ses clients, va jouer un rôle en amont en alertant les clients sur les rachats potentiels. Après, en aval, une fois le processus lancé, SGSS sera l'intermédiaire entre ses clients et les CSD pour la transmission ou la mise à jour des instructions. Ainsi, point à signaler, ainsi que l'information du CSD du résultat d'un buy-in, parce que le CSDR impose au CSD un reporting des résultats du buy-in auprès de leur régulateur.
D'accord. Alors, dernière question en quelques dizaines de secondes. Quelles sont les difficultés majeures qui subsistent et qui restent à surmonter?
Alors, définitivement, vous l'aurez compris, hein, je pense qu'on le martèle depuis le début, l'absence de clarification de la part du régulateur. Les groupes de place essayent de mettre en place des pratiques standardisées et pour ce faire, on a besoin de réponses, réponses qu'on n'a pas. Aujourd'hui, on continue à ouvrir des points et en vain. Désolée pour ce moment d'humeur. Si je rentre juste citer deux exemples qui sont vraiment importants pour l'industrie. Le premier, c'est la mise en place d'un mécanisme qui permettrait de limiter, parce qu'il ne faut pas rêver, on n'arrivera jamais à éviter tous les suspens inutiles, les rachats pardon, inutiles dont je parlais tout à l'heure, et tout en bien évidemment tout en restant respectueux de la réglementation, il ne s'agit pas d'être hors la loi. L'autre point, c'est le scope d'application du rachat. Aujourd'hui, il est assez vaste. Or, il y a des cas de figure où ça n'a aucun sens de déclencher un rachat. En petit exercice post-réunion, je vous laisse imaginer ce que sera un rachat dans le cadre d'un transfert de portefeuille. Autre cas de figure, c'est quand l'industrie avait déjà mis en place des procédures tout à fait efficaces pour clore un suspens. Et là, je citerai uniquement la buyer protection qui s'applique dans le cadre des OST. Il ne faut pas qu'un rachat vienne effacer le bénéfice de cette buyer protection. Pour autant, malgré tout, même si on imagine que nos réponses, qu'on obtienne nos réponses et qu'elles soient dans le sens que l'on souhaite, il n'empêche que ce processus de rachat est complexe, que les effets collatéraux sont négatifs et pas de manière petite, et que du coup, c'est pour ça qu'au niveau de l'industrie, des associations, on continue à militer pour un buy-in qui serait la base du volontariat et pas obligatoire comme il devrait l'être demain, 1er février.
D'accord, donc un sujet qui est loin d'être clos et des actions de lobbying qui se poursuivent pour obtenir ce report qui est fortement appelé de nos voeux.